Prehra. To. Alors, la tête savée. Allez. Toi, on prend en bulle. Aujourd'hui, donc, c'est une date assez particulière. Pour plusieurs raisons. Une raison déjà nationale. Zayin Adar, la ptira de Moshe Rabbeinu. Où les Chachamim se sont aventurés de façon hasardeuse, parce qu'il n'y a pas de, y a pas véritablement de, d'indice précis et explicite dans la Torah de la mort de Moshe à telle date, et encore moins de la naissance. Tout ça est basé sur des raisonnements approximatifs qui nous disent que le 7 Adar, il est décédé. Et le 7 Adar, il est né. Très bizarre, c'est comme si en fait on ne pouvait pas garder cette journée comme une journée blacklistée par le judaïsme. Perdu. Le prophète nous a quittés,
comme
la
les
source.
Autres. Comme les autres.
Non, surtout, c'est-à-dire que Chachamim ont cette audace. On vient en fait, l'information qu'on a eue, c'est il est décédé le 7 Adar par rapport à des comptes qu'ils ont fait. Donc il est né aussi cette date-là.
Ah oui, c'est ça.
Bon.
C'est pas
dit clairement. En même temps, le Zayin Adar pour moi reste une date assez mémorable puisque c'est la 9e mascara de ma maman. Est un 7 Adar aussi, il y a 9 ans. Et donc, bien entendu, ce shiur est dédié à l'Eilou Nishmatam, Imi Urati Yael Batsara. Et donc, après ce qu'on a appris à la nouvelle qu'on a appris hier soir, on ne peut pas ne pas le mentionner. Le Rav Rosenberg nous a quitté hier. Et effectivement, c'était un homme de Torah. Tout le monde, bien sûr, fait la relation avec Zayin Adar. Il va être enterré aujourd'hui à Petah Tikva. Moshe Rabbeinu qui va l'accueillir, etc. Bon, Hachem. Il y a une phrase qui me vient à la bouche en parlant de lui de cette façon-là. Comme Chacham disent, Hachem, Mishé Balekan, ve Talmud Obeyado. Talmud Obeyado. Mamash, c'est le Talmud dans sa main. Depuis l'âge de 16 ans, il avait fini pour la première fois déjà le chasse. À 16 ans, il avait fini le chasse. À 26 ans, il était Rosh Yeshiva à Marseille, la Yeshiva Ktana. Et la Yeshiva Ktana à Marseille, ça a toujours été d'un niveau assez poussé. Et après, à 26 ans, prendre ce genre de fonction, c'est pas donné à tout le monde. Sans compter donc tout ce qu'il y a sur son site, les cycles, les différents cycles. Alors il y a un cycle qui n'a pas été enregistré, qui n'est pas sur le site. C'est le 11e cycle. Sur son site, il a le 12e et presque la quasi-totalité du 13e, jusqu'à Khoulin. Un homme qui est passé par des épreuves aussi assez difficiles dans sa vie. Quand il est parti de Marseille, en fait, il a été à Anvers, il a pris la direction d'une école là-bas. Et après, il a été frappé d'une tumeur au cerveau. C'est ce qui l'a fait revenir en France. Il a atterri d'abord, il a pris la communauté de Bondy. À l'époque, quelques temps. Donc, il avait subi une opération, la chimio, il a été extrêmement dégradé. Et il s'est reconstruit, et il est reparti de plus belle, pour plus de 20 ans. C'est un survivant vivant. C'était un homme auquel j'étais particulièrement attaché, par sa sagesse, et pas seulement sa sagesse, c'est ce que les gens connaissent le plus, effectivement, c'est sa connaissance, c'est sa mémoire phénoménale, et son étendue d'informations de partout, de toutes parts, dans l'histoire, d'un point de vue halakha, d'un point de vue technique. Il n'y a pas grand-chose qui était un secret pour lui, il s'est même intéressé à la Kabbalah, à la Chassidout. Extraordinaire, il y a des cycles entiers sont dans les parachats de la semaine où il prenait une phrase du Likutei Moharan de Rabbi Nachman de Breslev et son chiour d'une heure sur la paracha, il essayait juste d'expliquer une phrase du Likkut Moharan que certains lisent comme des Tehillim. Il avait une approche de la Chassidoute, une richesse de culture, de toutes les tendances. Vraiment, extraordinaire. Et à part cet homme de Torah, c'était un homme de chesed. Et ce qui me frappe, c'était, mamash, comme la Torah elle dit, « Ve'avta l'ereacha kamocha, ani Hashem ». Pas « Ve'avta l'ereacha kamocha » parce que c'est bien, parce que c'est plus agréable, c'est plus paisible. Non, parce que « ani Hashem ». J'ai jamais vu, voilà, quelqu'un qui pratique le chesed autant comme un soldat que lui. C'est le chesed comme un soldat. C'est le chesed avec une rigueur. Bon, d'ailleurs, il n'avait pas une seconde à perdre. Tout était millimétré au niveau de son temps par rapport à ses préparations du Dafayomi, de différents shiurim qu'il devait donner. Et lorsqu'il se penchait sur un problème humain, bon, tout était calculé. Il fallait aller très vite. D'accord, il n'était pas d'Afka chaleureux hein, dans son accueil à plusieurs reprises, alors que je le connais personnellement. J'ai dû l'appeler Erev Shabbat pour des questions urgentes. Je peux vous poser une question, ça va prendre combien de temps, il est trop frottis. Mais il n'a jamais refusé à qui que ce soit de l'aide. Il avait un gmar, un capital qui tourne chez nous. Il prêtait des dizaines de milliers d'euros à énormément de monde, mais avec une rigueur, il tenait ça. Même s'il y avait une fraudeur, c'était un chesed de soldat. Voilà. C'était pas un chesed sentimental, impulsif, sentimental, etc. C'était vraiment un chesed pensé, réfléchi, structuré. Combien de cas graves de maladies, des fois irréversibles, lesquelles il prenait à cœur. Mais encore une fois, c'était pas du domaine de la compassion. C'est du domaine de la mitzvah. Il donnait le temps qu'il fallait pour dire consultez tel médecin, faites confiance à tel professeur, ne faites pas confiance, je veux poser la question au professeur Führer là-bas en Israël. Énormément de cas il avait. Moi j'ai été dans la Torah et dans le Chesed. Il est vraiment un homme, vraiment un exemple. Voilà, il nous a quittés, donc ce shiur soit l'Isruto aussi. Alors, puisqu'on parle de la disparition de Moshe, Parashat Tetzavé, on va essayer de tout mettre ensemble. Alors, on commence toujours avec notre petite anecdote du début, cette fois très courte. Il dit c'est un couple qui se trouve en grande tension, qui a recours au service d'un conseiller conjugal. Et donc, ils se rendent donc à la consultation. Et donc, la Le docteur donne, le conseiller donne la parole à la femme. Écoutez, j'en peux plus. Mon mari ne me dit rien. Jamais un mot gentil, jamais un compliment, un remerciement, quelque chose de chaleureux. Hein? Il n'y a plus rien qui sort de sa bouche à mon égard. Alors, le conseiller se tourne vers le mari. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous dites par rapport à cette plainte? Elle lui dit, écoutez, moi, j'ai connu ma femme il y a 25 ans, on s'est marié. Quand je l'ai connue, je lui ai dit que sa personnalité me plaisait énormément et qu'elle était une très belle personne, pas seulement physiquement, mais aussi moralement. Et depuis le début, je lui ai dit, fais-moi confiance, s'il y a le moindre changement, je te tiendrai au courant. Donc, il l'a mis au courant. Donc s'il n'y a pas de changement, j'ai rien à dire. J'ai dit les choses il y a 25 ans. Il n'y a plus besoin de dire. On va essayer de parler de ça. C'est, je pense, un sujet qui a toute son importance, dont je n'ai aucune prétention d'apprendre à qui que ce soit, quoi que ce soit, mais voilà, disons les choses à voix haute pour essayer de s'éveiller à certaines valeurs de la Torah. Le sujet, bien entendu, c'est savoir faire des compliments, savoir reconnaître le bien, dire un mot positif à quelqu'un, fait partie des sujets essentiels et très lourds, très importants dans la Torah en général. Et je pense que la paracha Tetzavé est peut-être la paracha la plus adéquate pour pouvoir aborder ce sujet. Généralement, on fait un chiour sur ce qui a marqué dans la paracha. Aujourd'hui, on va faire le chiour sur ce qui n'a pas marqué dans la paracha. C'est ça aussi, les juifs. Je trouve toujours des idées originales. On peut faire un chiour de ce qui n'a pas marqué. Pourquoi c'est pas marqué? Ça aussi, c'est un chiour. On va commencer par une question d'Alaha qui avait été posée au Rav Avadi Yosef Zichronot Tzadik Livracha. Une question qu'il rapporte dans son réponse de Shut Yabia Omer dans Yoredea Siman Lamed Bet. Une question peut-être connue, dont vous avez déjà entendu peut-être de ma part. En fait, c'est une jeune fille qui a grandi dans une maison tout à fait pratiquante, même plus que pratiquante, orthodoxe, qui est passée, on va dire, dans sa période d'adolescence par des crises assez mouvementées d'identité. Et donc, elle a fait toutes sortes d'expériences. Et parmi les expériences, une de ces expériences l'avait amenée à être enceinte, à faire pousser une grossesse en elle, à laquelle elle a donné un terme en ayant recours à ce qu'on appelle la... Comment ils appellent ça? Palate. L'IVG. L'IVG, voilà. L'IVG. Avortement. Et comme beaucoup de jeunes filles arrivées à l'âge où elles comprennent qu'elles doivent faire leur vie, alors généralement la seule référence qu'elles ont, à laquelle elles tiennent véritablement, c'est quelque chose de très récurrent aujourd'hui, arrivé à cet âge-là, on arrête de rigoler, la seule référence qu'on a, c'est comment c'était chez papa et maman. Et donc, bien entendu, arrivé à cet âge-là, c'est complètement rangé. Je ne veux pas sortir de ça. En fait, c'est la vie que je veux. C'est comme ça s'est passé chez mes parents. Je veux de ces valeurs. J'y adhère complètement. Et je tiens à le reproduire. Et Baruch HaShem, cette famille avait une bonne renommée. Donc, elle a pu bénéficier quand même d'une proposition intéressante. D'un bon Bachor Yeshiva. D'un élève sérieux. Dont la crise d'adolescence, on va dire, ne l'a pas laissé faire de grands écarts. Et bon, Hachem, donc, ils se sont mariés rapidement et très vite, donc, elle est enceinte du premier enfant, auquel elle donne naissance, bien entendu. Et 30 jours après la naissance, se pose la fameuse question. Elle se pose la fameuse question, puisque lui est particulièrement heureux de pouvoir réaliser la mitzvah de Pidyon HaBen, ce qui va entraîner à réciter la bracha de Shehiyanu et la bracha de racheter son fils. Mais elle... C'est la vérité, que vu l'avortement qu'elle a subi auparavant, on ne peut pas considérer ça comme un béchor, selon la halakha. Et donc elle se pose la question, et elle envoie une lettre au Rav Avadia Yosef pour lui poser la question, dois-je le dire à mon mari? Est-ce que au nom de l'interdit de bracha chez Natsricha ou bracha levatala, est-ce qu'au nom de cette halakha, au nom de ce concept religieux, je me dois de dire à mon mari la vérité? Comme quoi, c'est pas un béchor, ou bien peut-être que si jamais je lui dis, je risque d'être considérablement déprécié aux yeux de mon mari, et je ne sais pas ce que la suite de l'histoire va donner. S'il l'apprend maintenant, alors ça risque effectivement de rendre les choses assez houleuses. Ça, c'est la question qui a été posée. Alors, on va donner quelques éléments pour pouvoir nous ramener, on va dire, l'évidence de la réponse. D'accord, on a compris. Est-ce que, voilà, est-ce qu'il faut choisir la stricte vérité, ou est-ce qu'on fait du... Allez, pour utiliser des raccourcis, est-ce qu'on fait du social? Est-ce qu'on prend en compte les sentiments, les appréciations, les dépréciations de chacun, et en fonction de ça, on va donner une réponse? Qu'est-ce que la Torah? Voilà. C'est ça ou c'est ça? Alors, comme vous savez, donc comme on a dit au début du shiur, aujourd'hui, donc, c'est la Iloula de Moshe Rabbeinu, Zayin Adar. Et la Torah, justement, s'est exprimée clairement, alors pas au niveau de la date, mais au niveau du sujet de la Ptira de Moshe Rabbeinu. Puisqu'il est dit, à la fin de la Torah, dans la paracha de Vezot Abracha, ויאמר שם משה עבד השם בארץ מואב ויגבור אותו בגיא etc. Et פסוק ח' nous dit comme ça dans le chapitre 34, dernier chapitre de la Torah. ויבכו בני ישראל את משה Be'arvot Moav, Shelochim Yom. Les Bnei Israël ont pleuré Moshe dans la plaine de Moab pendant 30 jours. Vaitemu yeme vechi evel Moshe. Ici traduit, ça a cessé, ils s'achevèrent. Et donc, on prit fin les jours de deuil, les jours de pleurs sur le deuil de Moshe. Et bien, voilà, ça c'est le passou qu'on a sur les répercussions au niveau national de l'absence définitive de Moshe. Voilà, c'est comme ça. Le peuple a pleuré 30 jours. Finito. Ok. On a un autre personnage qui n'est rien d'autre que son frère dans la paracha. Dans la paracha de Bamidbar, dans la paracha de Roukat. Lorsque la Torah nous fait part de la mort de Aaron, elle dit à peu près les mêmes choses, à quelques différences près. Et on va voir, on va essayer de faire ressortir, de mettre en relief un petit peu ces différences. À propos de Aaron, il est marqué Vayiru kol ha'eda. Toute l'assemblée a réalisé, a vu, qui gava Aaron, que Aaron a succombé. Vayivku et Aaron. Ils ont pleuré Aaron. Jusque-là, c'est comme Moshe. Shloshim yom, 30 jours, le même tarif. Kol bet Israël. Tous les foyers d'Israël. Alors, on remarque ici déjà, de façon flagrante, il y a deux différences entre la mort de Moshe et la mort de Aaron. Les deux différences flagrantes, déjà, comme Rashi nous le précise, quand on dit Béné Israël, on ne fait référence qu'aux hommes, principalement. Alors que quand on dit, à propos de Aaron, Kol Bet Israël, on parle des foyers. Les foyers, c'est aussi bien les hommes que les femmes. Donc, déjà, première différence, à la disparition de Moshe, seuls les hommes ont été touchés. Alors qu'à la disparition d'Aaron, les femmes aussi étaient touchées. Tov. Deuxième différence, à propos de Moshe, il n'est pas marqué « Kol Béné Israël ». C'est même si les hommes ont été touchés, la Torah conçoit tout à fait qu'une partie des hommes, pas tous étaient des fervents adhérents de Moshe. Adhérents peut-être, oui, mais fervents moins. Donc ils n'ont pas tous pleuré. Alors que quand on dit les hommes et les femmes chez Aaron, c'est marqué « Kol Bet Israël ». Deux différences assez flagrantes entre la disparition de ces deux frères-là. Alors, la raison pour laquelle, bien entendu, les femmes étaient touchées par la mort de Aaron, comme on le sait, Rashi le rapporte sur place dans Parashat Roukat, c'est parce que Aaron avait endossé le rôle du conseiller conjugal, du rabbi Bosher, de celui qui va savoir comment relier des cœurs brisés. Alors, c'est aussi bien entre les hommes et les femmes, pour les couples, pour les foyers, mais c'est aussi valable entre deux frères, ou bien deux associés, qui avaient une dispute vive. Et Aaron était toujours là pour essayer, pour, on va dire, trouver le moyen de réconcilier honnêtement les deux parties qui étaient fâchés. Et on voit que même, si on va un peu plus loin dans les différences, et ça c'est le Avot, c'est le Magen Avot, c'est un commentaire sur le Avot des Rabbi Nathan, dans le Perek Yud Bet, il dit là-bas, on remarque encore une troisième différence. C'est qu'à propos de Moshe, lorsqu'on parle du pleur des Bnei Israël, immédiatement la Torah ne redoute pas de dire « Vaitemu yeme even Moshe ». Ça s'est achevé, 30 jours, hein, c'est fini, ça y est. Alors que sur Aaron, ce n'est pas marqué. Et vous savez les méthodes que les Chachamim ont pour comprendre un passouk. La plupart du temps, on se sert toujours d'un comparatif qui met beaucoup plus en relief le sens profond du passouk. Effectivement, quand on compare le passouk de Moshe avec Aaron, sur Aaron, il n'est pas marqué qu'au bout de 30 jours, cela, la période de deuil et des pleurs s'est achevée. Ce qui sous-entend qu'après 30 jours, pour Aaron, c'était pas achevé. Et les gens continuent à pleurer. Il y a une période de deuil réglementaire, d'accord. Mais même après cette période de deuil réglementaire, les gens continuent à pleurer. Et bien, si on va un peu plus loin, il y a encore une autre différence. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Aaron est le seul sur lequel la Torah nous dévoile explicitement la date de son décès. Comme c'est marqué là-bas. Bachodesh achamishi, bechal achodesh. le cinquième mois, le premier du mois, Rosh Chodesh Av. Alors que ni sur Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Myriam, tous ces personnages évoqués par la Torah, à aucun moment donné, la Torah ne donne de date de façon explicite, à l'exception d'Aaron. Donc il y a quand même pas mal de différences qui ressortent de la comparaison de ces deux psukim. Et à partir de là, dans l'Ikoutei Sichot, le rabbi pose la question suivante. Enfin, il y a plusieurs questions, mais l'étonnement est du même ordre. Vous savez, on a l'habitude de dire cette fameuse expression très populaire qui dit « Achare mot, kedoshim est mort ». Après la mort, tout le monde dit qu'on était kadosh. Même sur un Anama Aretz, tout d'un coup, ah, c'était quelqu'un d'exceptionnel, magnifique, etc. Achare mot, on redoute plus rien. Ça, je vous avais dit un jour, quand j'étais à la Yeshiva, à Kfar Hasidim, j'étais adolescent, j'avais 18 ans peut-être. Je me rappelle qu'il y avait un avrer qui est décédé assez jeune. Et donc les rabbanim en chiour ont parlé bien sûr de la tragédie. Il a laissé une famille, énormément d'enfants, etc. Et il y avait un rave assez audacieux hein, qui a eu le courage de dire à ses élèves la chose suivante. Il leur a dit, mais pourtant hier, il était encore là, il se baladait encore dans les murs de la yeshiva, il était au Beit HaMidrash, il sortait des sfarim, il faisait ses recherches. Bon, quelqu'un d'ordinaire, lambda. Aujourd'hui, on l'a enterré. Vous avez entendu, il a fait ça, il connaissait ça, il est exceptionnel, et quel père, et quel homme. Et... Makara, pourquoi hier on ne le savait pas? Toujours comme ça. C'est de façon récurrente, c'est toujours Acharemot, Kedoshimemor, Acharemot, Velolifnemot. Pourquoi je vous dis qu'il a eu l'audace d'en parler? Parce que je pense que c'est courageux de reconnaître ça. Il dit parce que pourquoi on ne le dit pas la veille? Pourquoi on ne le réalise pas avant? On le réalise après. Il dit, véritablement, c'est un problème d'ego. Parce qu'en disant du bien de l'autre avant, on a la sensation de se diminuer. Une fois qu'on sait qu'il n'est plus là, il ne risque pas de nous faire de l'ombre. Donc là, on peut dire des vérités. C'est navrant, hein, mais c'est une vérité. Pour moi, c'est une vérité. C'est une vérité absolue, c'est comme ça. Et c'est, maman, ça s'imbrique très bien dans le sujet qu'on essaye de développer ensemble. En tout cas, le rabbi posait la question suivante. Il dit généralement, Acharemot Kedoshim Emor. Toi, tu as attendu de parler de Moshe Rabbeinu. Isha Elokim. Donc, c'est pas un Ama Aretz. Isha Elokim. Et tu m'écris un peu. À la rigueur, on ne dit rien. Dis-moi, il est monté sur la montagne, le bon Dieu l'a enterré. Non. Tu me dis quand même. Et ils ont pleuré, les béné Israël, pas tous, que les hommes. Et après 30 jours, il n'y avait plus rien. Quel cavon. Sachant que tu as déjà écrit un pasouk dans la Torah à propos de Aaron, dans lequel tu as mis en exergue des descriptions précises qui dépassent celles que tu fais à propos de Moshe. Et dis alors quoi, on attendait que Moshe Rabbeinu meure pour l'incriminer, un peu, pour le descendre? C'est quoi cette façon que la Torah a, bien sûr, de. C'est réfléchi, je dis sous forme de questions, mais. Ça a l'air, on déprécie Moshe à travers ce passage qu'on fait en fin de compte. Ils ont pleuré, pas tout le monde, et après 30 jours, c'était fini, voilà. C'est, quand on prend le passage d'Aaron à côté, c'est comme ça qu'on le lit, le passage. Il dit, c'est quoi cette façon de faire? Pourquoi on écrit ça ici? Alors, cette semaine, effectivement, bon, on lit la parasha Tetzaveh dans laquelle le nom de Moshe n'apparaît pas. Étant le personnage principal, ici il a fait un décompte, depuis la parasha où il est né, dans la parasha Shemot, jusqu'à la parasha Masé, qui est la Torah dite par Dieu. D'accord ? Après c'est Elé Adévari Macher Diber Moshe, après c'est lui qui parle. Donc on compte pas les fois où lui il a écrit son nom, mais les fois où Akadosh Baruch Hu a tenu de le mentionner, entre Shemot et Masé, il y a marqué 600 fois Moshe dans toute la Torah. Donc en proportionnel, à peu près, ça fait à hauteur de 20 fois par parachat. À peu près 20 fois par parachat. Donc bien entendu, vous imaginez, quand un personnage est d'une telle façon omniprésente dans tous les textes, et on arrive, Ve'ata, Tetzaved, Ve'ata, Hakrevelecha. Là, on s'adonne à quelque chose de tout à fait bizarre. C'est-à-dire que il y a le jeu, il connaissait le jeu du ni oui ni non. Alors maintenant, il faut écrire une paracha du vivant de Moshe sans dire Moshe. On a joué à ça. C'est ça, paracha Tetzaved. Tu vas parler de lui, parce qu'on ne peut pas ne pas parler de lui, parce que c'est par lui que tout passe. C'est à lui qu'on demande de mettre en place les Kohanim, de confectionner leurs habits, de dire ce qu'il faut faire pour qu'ils deviennent des Kohanim, etc. Alors, mais sans, il faut pas dire son nom. Sans cette paracha, il ne faut pas dire son nom. Comme ça, le Zohar Hadash dans Shir HaShirim, une très belle phrase, il dit « Nimcha shemo mi paracha yafa sheba Torah » Son nom a été effacé d'une belle paracha de la Torah, « Bemitzvat Maaseh HaMishkan » qui contient les mitzvot, les règles relatives donc à la confection du Mishkan. « Shayalo lirtov shmo shel Moshe »« Bechol mila o mila » C'est une paracha qui normalement aurait dû occasionner à ce que Moshe apparaisse entre chaque mot. Il est omniprésent, c'est par lui que tout passe. Donc c'est pas comme avec l'histoire de Yosef et Yaakov et les frères. À un moment donné, on change la caméra, on va sur Yehuda et Tamar, donc il n'y a plus de raison de parler de Yosef. Donc après, on revient chez Yaakov. Non, là, tout passe par Moshe, mais il ne faut pas dire son nom. Comme ça le Zohar relève cette anomalie. Alors, à la fameuse question, donc pourquoi ? Et pourquoi jouer à ce jeu ? Pourquoi effacer son nom ? Alors, on a trois explications. On va les dire graduellement. L'explication la plus connue d'entre elles, c'est le Baal HaTourim. Le Baal HaTourim, sur place, nous dit, étant donné que Moshe Rabbeinu, dans la paracha qui va suivre, va dire « Ve'ata imtisach hatatam ve'im ayin mechanina misifrecha » En fin de compte, dans la dernière négociation de Moshe avec Hachem à propos de la faute du Vaudor, il lui dit « Et maintenant, si tu veux effacer leur faute, tant mieux. Ve'im ayin, mais sinon, mechanina misifrecha asher katafta. Efface-moi de ton livre. » Il dit, bon, alors dit le Baal HaTourim, voilà, il a demandé à ce que ce soit effacé. Un tzaddik de ce niveau-là, sa parole ne tombe pas dans le vide, donc ça doit être réalisé. Comme ça, c'est la vision du Baal HaTourim. Après, la question qu'on se pose, c'est pourquoi ça doit être réalisé maintenant dans la paracha Tetzaveh. Alors, il y a deux belles explications. Il y a une explication chassidique comme ça qui disait, en fait, il a dit ça à Kitissa. Imaginons, d'accord, que les parachutes sont au fur et à mesure du temps. Ils sont écrits. Donc, dans Kitissa, il dit « Efface-moi ». Toi, Hachem dit « Ok, j'ai enregistré, je vais t'effacer ». Bon, alors maintenant, on passe à la paracha de Vayakel. Je t'efface ? Non, pas maintenant. Vayapekoudé, non ? Bon, alors Vayikra, non ? Et en fait, il ne l'efface pas. Il n'arrive pas à l'effacer. Et c'est seulement arrivé à la dernière paracha, ce que Tetzaveh précède Kitissa. Et c'est en Kitissa qui demande d'être effacé. Donc, c'est comme si Hachem, il fait le tour de l'année. Et à la dernière paracha, il dit, bon, j'avais dit que je devais le faire. Bon, là, il faut le faire. Alors, bon, vraiment, avec grand regret, je vais t'effacer d'une paracha. Comme ça, une explication chassidique, il dit. Une autre explication, on ne peut plus qui c'est qui donnait ça, il dit, « Mechenina misifrecha, misifer chaf, efface-moi de la 20e paracha. » Chaf, 20. Il sait faire Raf, la 20e paracha depuis Bereshit, c'était Tzavé. Mechanina misifrecha. Donc ça expliquerait pourquoi il l'a effacé et pourquoi dans cette paracha il l'a effacé. D'accord, mais bon, c'est comme ça, la clala d'un tzadik ne tombe jamais dans le vide. Comme ça, on raconte à propos d'un homme riche qui un jour est venu dans la ville de Radin avec sa calèche ou sa diligence, je ne sais pas. Et il s'arrête devant le Beit HaMidrash au moment où le Chafetz Chaim s'apprête à rentrer chez lui. Et il s'arrête, il voit un petit bonhomme comme ça avec une casquette simple, une barbe, sortir. Et il lui dit, dites-moi, je peux vous demander, où est-ce qu'habite le grand sadique qu'on appelle Chafetz Chaim ? Alors le Chafetz Chaim, il lui montre une direction, et il dit vers là-bas. Et là, il n'a pas pu se retenir. Il lui dit, mais sachez que C'est pas un si grand sadique que ça. Alors l'autre, quoi ? Mais comment vous parlez-vous ? Ça va pas ? Ben, le Hafetz Chaim, tout le monde sait que c'est le sadique de la génération. Le Hafetz Chaim répond, écoutez, il s'avère que je le connais personnellement. Et c'est vrai, c'est pas un sadique aussi grand que vous l'imaginez. Et l'autre, il a sorti son bâton. Il lui a dit, va-t'en, allez-vous-en, comment vous parlez du... Il lui a donné un coup. Il a donné un coup, Hafetz Chaim. Et quand, en fin de compte, il a reçu donc l'information de l'adresse exacte et qu'il s'est rendu chez le Hafetz Chaim, et il rentre dans la maison et il voit le petit vieux qu'il avait frappé. Alors, bien sûr, il allait s'évanouir de confusion, de honte. Et le Hafetz Chaim dit, non, surtout ne soyez pas gêné pour la scène de tout à l'heure. Grâce à vous, j'ai appris quelque chose. Vous savez, j'ai écrit tout un livre sur Lashon Hara, Shmirat HaLashon. Ben aujourd'hui, j'ai appris qu'il ne fallait même pas dire du Lashon Hara sur soi. Un tzadik, il dit quelque chose. Nous. Un deuxième terout sur pourquoi le nom de Moshe n'apparaît pas dans cette paracha. Ça, c'est dans un livre qui s'appelle Panim Yafot. C'est le Baal Afla, un des plus grands élèves du Maggid de Mezritch. Alors lui, il donne une réponse encore plus simple que ça. Il dit parce que, au niveau du calendrier, que ça soit une année normale avec 12 mois, ou une année embolismique avec 13 mois, le Zayin Adar, il tombe toujours par Parashat Tetzaveh. Donc justement, Akadosh Baruch Hu a voulu l'effacer, pas de façon dégradante, comme pour marquer, voilà, cet homme exceptionnel, unique dans l'histoire, a disparu. Donc, le Zayin Adar, ça tombe toujours. Tu savais, tombe Zayin Adar. Donc, il fallait marquer cette paracha-là. Hachem a voulu, au contraire, pour marquer son absence, qu'on ne parle pas de lui de façon exceptionnelle. C'est une belle réponse aussi, qui répond les deux questions en même temps. Pourquoi on l'efface et pourquoi de cette façon ? Il y a une troisième réponse qui va nous intéresser par rapport au sujet qu'on a abordé, qui figure dans un livre qui s'appelle Midrashé à Torah, d'un Chacham qui était à Barcelone au XIIIe siècle. Et il dit ça en deux phrases qu'on va essayer de développer. Il dit Ba'avur Sha'keuna Aïta Reouya le Moshe, Veneetka le Aaron. Il dit parce qu'en fin de compte, la paracha Tetzaveh, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle aborde le sujet de la Keuna, c'est les prêtres. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Comment ils vont s'habiller ? Quel va être leur rôle ? Etc. C'est les Kohanim. Étant donné que Moshe Rabbeinu aurait dû être Kohen, c'est lui qui aurait dû remplir toutes les fonctions. Aussi bien le guide, le roi, le Kohen Gadol, il aurait dû être tout. Mais puisqu'à un moment donné, dans la négociation initiale avec Hachem, pour sortir les Bnei Israël d'Égypte, Moshe Rabbeinu, on sait qu'il a été réticent, il a refusé. Et à un moment donné, il a outrepassé, ne serait-ce qu'un petit peu, son droit de parole, son droit de réponse. Et il a dit à Hachem, « Shelach na beyat ishlach ». Rashi explique là-bas, c'est-à-dire quoi ?« Shelach na beyat ishlach ». Envoie celui qui a le pouvoir là-bas, Beyat, celui qui a la main. Celui qui a la main en Égypte, c'est Aaron, c'est mon frère. Demande à mon frère que tu refuses parce que tu penses que... Ça, c'est ton problème. Mais de dire à Hachem déjà, « Mais prends-lui. » Alors il dit, c'est à ce moment-là que Moshe Rabbeinu a perdu la Kehuna. Mais en fait, il a perdu la Kehuna sur quel contexte, dans quel décor, dans l'idée de l'abnégation. Je ne suis pas celui que tu penses que je dois être, alors laisse l'autre. Alors je dis, okay, bon, laisse l'autre, alors je vais lui donner la Kehuna Gdola. Lui va être Kohen Gadol. Mais toi, tu vas libérer les bénis d'Israël. Il dit, c'est extraordinaire. Moi, je n'avais jamais eu cette réponse. Il dit, c'est justement dans la paracha qui parle des Kohanim qu'on va faire disparaître le nom de Moshe. Parce qu'il aurait dû être le Kohen, mais c'est justement cette mida de vouloir s'effacer pour laisser son frère. Qui a fait que son frère est devenu Cohen. Donc en fait, toute la carrière populaire que Aaron a pu développer durant son existence n'est due qu'à l'abnégation l'effacement, l'humilité de son frère Moshe. Donc il était tout à fait normal que lorsqu'on aborde le sujet des Kohanim, Moshe s'efface, Moshe disparaît. Parce que c'est ça qui a fait que les Kohanim viennent de Aaron. Extraordinaire. Alors, donc c'est ça, en fait, son absence est remarquée par son abnégation. À la rigueur, et c'est ça sa plus grande qualité, peut-être. On a dit tout à l'heure que dire un mot gentil à quelqu'un, faire un compliment à l'autre, c'est peut-être difficile parce qu'on a, on a l'impression de se déprécier, de se diminuer. Alors, il y a une histoire ici qui ramène, qui est extraordinaire. Un homme qui s'appelle Jacob, ça, un businessman londonien qui habite là-bas dans le quartier juif à Stanfordville et qui a de ses 10 doigts, toute sa carrière, il a mis en place une entreprise, une papeterie, un papier, l'imprimerie, etc. Et il sort d'un hôtel donc, de son quartier qui s'appelle Seven Sisters Road, avec lequel il vient de signer un contrat, surtout les flyers, la publicité, je ne sais pas quoi. Et il sort avec sa sacoche en cuir, et qui contient 100 000 livres sterling, 100 000 pounds. Ça faisait quoi, 150 000 euros à peu près, quelque chose comme ça. Il sort avec sa sacoche, il s'apprête à prendre sa voiture pour se rendre où il devait se rendre. Et là, il est arrêté par une bande de 3 hommes cagoulés qui lui barrent la route. Ils disent « Posez votre sacoche. Vous ne passez pas avec ça. Posez-la, allez-vous-en. » Et donc lui, en panique totale. Et il ne peut pas. C'est possible. J'ai rien à perdre, j'ai tout à perdre. Enfin bon, on y va le tout pour. De toute façon, je suis devant des malfrats. Il essaye une technique. En s'adressant à celui qui lui a demandé de poser sa sacoche, il lui dit, mais au son de votre voix, j'entends quelqu'un de bien, vraiment. Franchement, vous m'avez l'air quelqu'un d'honnête, qui a grandi avec des bonnes valeurs. Je comprends pas. En fait, vous avez besoin d'argent, pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez faire? Oh, déjà, pour aller savoir rock, on a besoin d'acheter de l'alcool et de la drogue. D'alcool, quel alcool? De vodka? Il dit, combien ça coûte une bouteille de vodka? 5 livres, 5 pentes. Il ouvre son portefeuille, il lui sort un billet de 10 pentes. Il dit, allez vous acheter, allez-y. L'autre, complètement surpris. Il prend les 10 pentes, il dit à ses 2 copains, allez, on y va, on se casse. Le lendemain soir, comme il a l'habitude, il va faire une traharit, son bétamirach à côté de chez lui. Et en sortant d'Arvit, il voit ce type-là qu'il a attaqué la veille, assis sur les marches en face de la synagogue. Au début, il veut faire ce demi-tour. Mais bon, après, il se reprend tout de suite. Et il voit que ce type se lève pour aller vers lui. Et le type lui dit, non, n'ayez crainte, je suis venu vous rendre la monnaie. Il reste 5 pentes. Alors, il dit, mais je voulais vous dire surtout au passage, de toute ma vie, jamais personne n'avait vu en moi quoi que ce soit de bien. Vous êtes la première personne au monde qui a perçu quelque chose de bien et je ne voulais pas vous décevoir. Donc voilà. Bémet, la question existentielle que tout le monde se pose, on court derrière quoi? Les forces, le pouvoir, le travail, l'argent. En fait, le dénominateur commun de tous ces domaines vers lesquels on court toute la vie, il y en a un seul, c'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance, c'est être reconnu par quelqu'un, par plusieurs personnes. Être reconnu, on veut juste être estimé à nos justes valeurs. Après, chacun a sa façon d'être estimé. L'autre à travers leur perfectionnisme, l'autre avec, à travers leur dévouement, leur messiroute des fèches. Chacun, il essaye. Chacun a sa branche, chacun a son caractère, chacun a ses tendances. Mais le point commun, c'est ce qu'on cherche. Aharacha atzmit. L'estime de soi, s'estimer soi-même. En fait, c'est ce qu'on a besoin. Et c'est exactement ce que la Gemara dans Ktuvot a fait d'Alef. Non, c'est pas le Kavod. C'est pas le Kavod. Aharacha atzmit. C'est ce que la Gemara dans Ktuvot Daf Kufiyud Aleph là-bas elle ramène à propos de Yehuda. Quand Yaakov bénit Yehuda avant de mourir, il parle la qualité de, les qualités royales de Yehuda. Il dit Ouleven Shinaï Mechalav. Il dit toi qui sais montrer les dents blanches, les veines Shinaï, tu es plus grand que celui qui donne du lait à l'autre. Celui qui donne du lait à l'autre, il a rendu service, ça lui a donné un peu de calcium, un peu de vitamine. Il va subsister encore quelques temps grâce à toi. Mais tu lui as fait un sourire, tu lui as fait un sourire. Tu as nourri une partie en lui beaucoup plus profonde et beaucoup plus nécessaire qu'un simple verre de lait. Le Rambam a des mots extraordinaires dans son Pirush HaMishnayot sur Sanhedrin. Il dit comme ça, je vous le dis, Atamotse rov bnei adam yagim nafshotem vegufem. Tu trouves une multitude de personnes à fatiguer leurs âmes, leur corps, be'amal ve'yia, avec une peine et un acharnement, she'en le ma'ala mimena. Il n'y a pas plus, il y a des gens qui dépassent des sommets d'acharnement. Atchi yagi alo ma'ala ve'kavod, she'inas uhu bnei adam. Jusqu'à qu'il arrive au niveau et à la reconnaissance, au kavod, à l'honneur, que les gens le reconnaissent. She'inas uhu, que les gens l'élèvent. Et après il dit l'humain est capable de se priver d'énormément de choses pour ne pas avoir à subir une confusion, une honte, une dégradation de leur personne en public. Bon, on connaît l'histoire de Tamar, etc. Et voilà, moi c'est surtout sur ça. Et déjà, attends, mais voilà, pour finir, en fait, pour revenir à notre question, vous comprenez. Et c'est là exactement la réponse que Rav Ovadia Yosef donne dans son Yabi à Omer. Il répond à la jeune fille, à la jeune femme. Et écoutez, le problème de Bracha Levatala, c'est un problème d'Iderabanan. Le problème de faire honte ou de déprécier quelqu'un qui peut arriver à la dissolution d'un foyer, c'est beaucoup plus grave qu'un problème d'Iderabanan. Donc c'est clair qu'il ne faut rien dire. Rav Ovadia Yosef, ne dites rien. Laissez-le, Bracha Levatala, répondez Amen derrière. Pas de problème. Je finis avec ça. En fait, et sur Moshe Rabbeinu, on a posé la question, mais comment, pourquoi la Torah veut dégrader Moshe? Pas du tout. Moshe Rabbeinu a eu un rôle complètement différent de celui d'Aaron. En fait, pour jouer le rôle d'Aaron, on est obligé d'être dans le social, dans l'humain, et donc dans la positivité, dans le compliment, des fois méritant, des fois pas justement méritant. Des fois potentiellement méritant et des fois complètement injuste. Mais on ne peut, il n'est pas dans le Emet. Moshe Rabbeinu, il est Ish à Elohim. À Elohim. Idat Adin. Il ne peut pas se permettre. Pourquoi le Passouk disait Vaïvku otok bene Israël, Vaïtemu? C'est Moshe Rabbeinu qui veut qu'on écrive ça sur lui. Une fois que Moshe Rabbeinu monte sur la montagne, ça y est, il réalise. Mais franchement, le vrai grand entre mon frère et moi, c'était mon frère. Ce que lui, il a laissé. Il a perçu le temps de peine qu'il allait marquer les esprits. Et il a vu ce que son frère, qui était décédé déjà depuis des mois, a laissé. Il dit, c'est clair que je ne vais pas marquer les esprits comme mon frère. Donc je veux qu'on écrive un passou qui, limite, me dégrade pour qu'on reconnaisse la grandeur de mon frère. Je finis par cette anecdote sur le Chafetz Chaim. On a parlé beaucoup du Chafetz Chaim aujourd'hui. Le Chafetz Chaim se trouvait un jour un Shabbat chez quelqu'un et la femme avait oublié de recouvrir le pain. Elle était crevée du Shabbat qu'elle avait préparé, recevait le Chafetz Chaim. Et le mari sans gêne, mais qu'est-ce que tu t'assois, t'as pas couvert les chalons, ça veut dire quoi ça? Le Rav était là, le Rav très gêné, il a rien dit. Quand ils sont partis faire Nekilat Tadim, la femme elle s'est levée, il s'est retrouvé avec l'homme. Il a dit, vous savez pourquoi on couvre le pain? Il a dit, non. C'est pour pas faire honte au pain. Que on aurait pu faire qui douche sur lui, mais on préfère le vin. Alors pour pas lui faire honte, on couvre le pain. Vous imaginez, les chachamim vont jusqu'à la sensibilité de la matière inerte, ne pas faire honte. Vous pensez que votre femme qui a préparé tout ce merveilleux Shabbat, elle mérite la remarque que vous lui avez faite devant moi. Regardez le film. Tu fais un scandale sur le pain. Mais le pain, c'est pour pas qu'il ait honte. Et toi, tu... Et voilà, c'est ça la raison. Pour Moshe Rabbeinu disparaît dans la paracha pour nous dire que justement, c'est sa plus grande qualité, c'était sans aucun soupçon, sans aucune hésitation, son ultime plaisir, c'était de mettre en exergue, de mettre en relief, en valeur, son frère pour qu'il devienne Cohen. Et il a toujours valorisé la qualité de l'autre encore plus que ce que lui représentait. Merci.